Sud Radio 10h midi, débat.
Les débats aujourd'hui avec Arnaud Benedetti. Bonjour, professeur. Bonjour. À la Sorbonne, spécialiste en communication politique et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Gaëtan Dussausset, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Conseil national du Rassemblement national. Bonjour. Et Mehdi Ouraoui est en ligne avec nous, essayiste. Vous êtes au Pays Basque, essayiste, spécialiste du discours politique. Bonjour.
Et bonjour Valérie.
Bonjour à vous. Et Nicolas Jeanneté qui vient d'arriver, il vient juste de retirer son casque, donc j'en déduis qu'il est à vélo. Bravo. Directeur des centristes et conseiller de Paris. Bonjour. Il y avait des embouteillages,
bonjour.
Nicolas
En vélo, j'en ai vu beaucoup.
Ouais. Ouais,
notamment ici, dans la zone de
Sud
Radio.
Je suis resté bloqué 40 minutes ce matin à l'arrêt, donc je vous le dis, si on me dit de prendre le RER, je veux bien. Hier, il y avait un accident de personne, donc il n'y avait pas de RER qui roulait. Donc voilà, Monsieur Béliard, qui hier a dit qu'il les fallait réserver à des déplacements essentiels.
Ça, c'est le coup de gueule,
Voilà, c'est mon coup de gueule. Je suis très énervée. Ouais. Mais je pense que ça va être le cas dans plein de villes.
L'enfer parisien recommence, c'est la rentrée et on n'a pas fini.
Monsieur Béliard qui est reparti hier en taxi de son interview à BFM, donc c'est bien, quand on est riche, effectivement, on peut se déplacer en taxi, et quand on habite en banlieue, on se démerde, on fait comme on peut et voilà. Donc je suis très énervée, de mauvaise humeur ce matin, donc ça va. Voilà. J'allais m'installer au Pays Basque avec vous.
Mais Valérie, je note que c'est la rentrée, donc on recommence à ne parler que de Paris.
Oui, c'est vrai, depuis le début de la semaine, on entend parler des 30 km/h. Alors à chaque fois, on essaye d'élargir le sujet parce que ça concerne d'autres villes également. Je pense que le cas de Paris.
On va parler de Marseille, heureusement.
Oui, on va parler de Marseille.
250 villes dans toute la France. Hein.
Oui, qui sont concernées par le 30 km/h.
Oui. Alors, les limites, moi je ne suis pas totalement défavorable aux 30 km/h. Le problème, c'est la méthode.
Ouais.
Et on nous impose les 30 km/h. Par exemple, pourquoi on n'a pas testé le 30 km/h pendant cet été? Ça aurait permis déjà, pour les taxis, de commencer à fluidifier le trafic, etc. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus, c'est un autre débat, mais c'est souvent pour Hidalgo un problème de méthode, pas de concertation, et surtout... pas d'alternative proposée.
Absolument. On va parler de Marseille, comme l'a dit Mehdi Ouraoui. On va revenir sur ces 3 jours à Marseille. Le coup de com' permanent, comme dirait notre ami Arnaud Benedetti. Marseille, ville perdue. J'entends beaucoup de Marseillais sur les différentes antennes qui plaident pour leur ville, qui sont amoureux de leur ville, et on les comprend. Maintenant, on ne peut pas se voiler la face et voir, comme on l'a évoqué avec ce policier, le problème des règlements de compte, du stup, et quelle solution. Encore un plan pour quoi faire. On va en reparler avec vous. On parlera de la rentrée scolaire demain et puis la rentrée des profs aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont assez payés? Il faudrait peut-être les augmenter. On va y revenir avec vous. Alors on commence avec vos différents coups de cœur, coups de gueule. Ce qui a retenu votre attention, Nicolas Jeanneté, c'est bien. Je voulais en parler. Donc ça tombe bien.
Eh bien alors, il y a un numéro. Vous savez ce qu'est le 3919?
Oui.
Je demande à mes...
Non, 3919, non.
Eh bien, le 3919 a été lancé dans la plus grande indifférence il y a 2 jours. C'est le numéro d'appel pour les violences faites aux femmes. Voilà. Et à travers ça, bien évidemment, on a envie de parler de ce plan de violences faites aux femmes qui a été lancé il y a quelque temps par le ministre de l'Intérieur, qui en fait reprenait les conclusions du Grenelle des violences faites aux femmes faites en 2019. Et excusez-moi de vous le dire, il n'y a rien dedans. Ce ne sont que des mesures qui ont été prises déjà depuis très longtemps. Il fait encore une fois, quand il fait des annonces, excusez-moi, on a le même problème pour le crack, pour les violences urbaines, il refait un catalogue des mesures existantes, avec là notamment un point noir, qui est la formation des policiers aux violences faites aux femmes. Ouais. Alors les syndicats nous répondent, il y en a, oui, il y a 2 petits modules, pendant la formation, mais le reste, pas de formation. Et puis, deuxième problème, il indique notamment vouloir mettre en place un référent violences faites aux femmes dans l'ensemble des commissariats et des gendarmeries, mais imaginez une petite gendarmerie en milieu rural, vont-ils recruter, un gendarme en plus? Bien évidemment que non. Donc ça va être encore du rafistolage, et c'est en même temps, excusez-moi, j'adresse à Marlène Schiappa, du bluff, de la communication et du grand n'importe quoi. Je voulais juste finir là-dessus sur mon coup de gueule, parce que je sais Valérie, elle trouve toujours que je suis trop long pour mes coups de gueule. Ne pas oublier les élus. Et j'en avais, je crois, déjà parlé ici. Nous, dans le 15e, puisque je m'occupe de la sécurité dans le 15e arrondissement, qui est grand, c'est 340 000 habitants, donc c'est l'équivalent de la ville de Bordeaux, on a mis en place, depuis un an et demi, avec le commissariat, une vraie cellule, avec deux agents policiers, un psychologue et une assistante sociale, qui sont là en permanence, pas jour et nuit, mais toute la journée, pour accueillir les femmes, battues. Et, grande spécificité, nous avons une élue chargée des violences faites aux femmes. Et ça, c'est très important, parce que c'est une amie en plus, elle fait un travail formidable. On s'est aperçu que beaucoup de femmes qui n'osent pas franchir le commissariat vont quelquefois à la mairie,
oui, forcément.
Voir l'élu, une femme, parler, et en fonction de la gravité de la violence, eh ben, l'élu traverse la rue et l'emmène au commissariat, et elle l'accompagne au commissariat. Voilà une idée qui devrait être généralisée dans toutes les villes en France.
Oui, mais ils n'ont pas trop le réflexe des élus. Hein.
Non, c'est la police.
Non, mais je veux dire, l'exécutif n'a pas le réflexe des élus, spontanément, de travailler avec les élus sur de nombreuses questions, comme celle-ci, par exemple. Ouais. Mais moi, je suis surpris, quand même, parce que quand on compare avec ce qu'ont fait un certain nombre de pays dans ce domaine-là, je pense à l'Espagne, notamment. L'Espagne a quand même mis des moyens, a eu une politique extrêmement volontariste depuis de nombreuses années, et indéniablement en Espagne on voit que ce type de phénomène est aujourd'hui en décru. Donc je ne comprends pas pourquoi, plutôt que de réinventer en permanence la roue avec des mesures à la Prévert, comme vous venez très justement de le dire, on ne s'inspire pas de ce qui se fait à l'extérieur. Ça me paraîtrait une politique de bon sens, plutôt que de poursuivre cette politique de communication qui est une politique qui vise tout simplement à saturer l'espace et à montrer que on essaye de faire quelque chose.
Oui, ou qu'on écoute des gens comme Luc Frémiot, que je cite à chaque fois, procureur qui depuis plus d'une vingtaine d'années a mis en place des solutions qui fonctionnent auprès des hommes violents, et qu'on n'écoute pas, qu'on ne consulte pas, donc c'est...
Et puis j'ajoute un dernier mot, que la réponse pénale, là aussi, a été complètement évacuée du plan. On a parlé de la mise en place d'un policier, etc., mais on n'a pas du tout accompagné tout ça d'une réponse pénale adaptée, avec des magistrats supplémentaires spécialisés, etc. Donc c'est encore une fois un plan pour rien, et d'ailleurs la presse n'a même pas parlé du lancement de ce numéro qui est quand même important, un numéro 24h/24, 7 jours/7.
C'est ça, une petite correction factuelle, mais qui pour le coup sur le fond va dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est que le numéro n'a pas été lancé, hein. Attention, c'est un numéro qui précède depuis très longtemps le mandat d'Emmanuel Macron. C'est un numéro qui existe depuis 30 ans, d'ailleurs.
Il a été allongé, les horaires ont été allongés, il a été transformé en 24h/24, 7 jours/7.
C'est une bonne chose. Les horaires ont été allongés, ce qui permet notamment aux femmes d'outre-mer, aux femmes des outre-mer, de pouvoir accéder à ce numéro-là. Bon, voilà. Mais de toute façon, sur le fond, ça allait dans le même sens. C'est que même le numéro n'est pas un lancement, n'est pas une nouveauté. C'est juste la prolongation des horaires d'accès à ce numéro-là qui existe depuis fort longtemps, fort longtemps par les associations.
Oui, sauf qu'il n'existait, quand on voit les horaires que cite Nicolas Jeannetet, on ne peut pas dire
qu'il
existait. Là, maintenant, c'est 7 jours/7, 24h/24.
Ce qui est plutôt une bonne chose.
39-19, pour rappeler, et pour les femmes victimes de violences. On se retrouve dans un instant pour la suite de nos débats sur Sud Radio, 0826-300-300. Si vous voulez réagir, nous appeler depuis Marseille pour nous parler de votre ville, n'hésitez pas, on vous attend.
Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour les débats, avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Nicolas Jeannetet, directeur des centristes, conseiller de Paris. Gaëtan Dussausset, membre du Conseil national du Rassemblement national. Et Mehdi Ourraoui, essayiste et spécialiste du discours politique. Donc on va parler de la rentrée des profs. Faut-il les augmenter? Sont-ils assez payés? Et puis parlons de Marseille, ces trois jours de visite à Marseille. Que peut-il changer? Que peut-il apporter? Un énième plan, un énième financement? On va en parler avec vous, 0826 300 300. N'hésitez pas à appeler si vous voulez témoigner, parler de votre ville, si vous aimez Marseille, si vous y habitez. On en parlera avec vous. Gaëtan, c'est un coup de gueule, Gaëtan Dussausset.
Oui, tout à fait, parce que il n'y a pas longtemps, j'étais censé aller à un concert, là, je crois que c'était vendredi de la semaine prochaine. Et finalement, il a été pour une énième fois, je crois que c'est la troisième fois pour ce concert-là, c'est un concert de black metal français, Regarde les hommes tomber, j'en profite pour leur faire une petite publicité.
Tu écoutes le black metal français?
On a une scène qui est incroyable d'ailleurs.
On dirait pas comme ça,
Le jour, j'ai la veste et puis la nuit, je mets après la veste en cuir et puis c'est parti. Mais je crois que c'est la troisième fois maintenant que ce concert est reporté. Pour quelle raison? Parce que en fait, on nous a fait la promesse d'un retour à la vie normale avec le pass sanitaire, la mise en place du pass sanitaire, même si déjà on peut s'interroger sur la normalité du pass sanitaire, de devoir justifier à chaque fois qu'on a été vacciné ou qu'on a été testé, etc., dans les 72 heures qui précèdent. Mais bon, bref, passons. On nous a fait donc une promesse sur le retour à la vie normale, et finalement, ce n'est toujours pas possible, parce que même si ces événements artistiques sont conditionnés au pass sanitaire, mais finalement, ils ne peuvent pas se tenir, puisqu'ils leur demandent d'avoir une jauge à 75%. Et donc, pour tous les concerts qui ont été programmés avant le début de la crise sanitaire, la plupart avaient vendu toutes leurs places. Les fans, évidemment, fidèles, ne revendent pas leur place et attendent que la nouvelle date arrive, et on se retrouve dans l'impossibilité de maintenir à nouveau ces concerts. Donc moi, j'ai un peu ce coup de gueule de me dire, bon, finalement, les Français, ils font tout ce qu'il faut, ils vont se vacciner, ils acceptent de présenter le pass sanitaire malgré tout ce qu'on peut en dire, et malgré ça, on n'arrive pas à avoir à nouveau accès à ces événements culturels, alors que pourtant, c'est un secteur qui en a quand même beaucoup pâti.
Il y a quand même des concerts qui se tiennent.
Il y en a quelques-uns.
Surtout
les festivals en open air, mais bon, il y a quand même un paquet de salles, notamment à Paris, mais c'est aussi le cas dans les autres régions. Il y a un paquet de salles qui avaient énormément de programmation, d'événements, et sur lesquels reporter. Voilà, c'est février 2022, donc on va être patient, mais voilà, encore 6 mois à attendre.
On comprend pas très bien polémiquer, mais enfin, on comprend pas très bien je trouve que l'anecdote qui vient de nous être évoquée comme ça, racontée un peu sur un événement un peu isolé comme ça, est assez intéressante et assez symptomatique du positionnement du Rassemblement National sur la question du pass sanitaire et la question des vaccins. Mais non, parce que alors, moi, je le dis vraiment sans esprit polémique, je suis incapable de dire, si je devais résumer en une phrase ou deux, la position de Marine Le Pen, par exemple, sur la question du pass sanitaire et sur la question des vaccins. J'avoue que dans la période politique qui vient de s'écouler, je le dis plus comme observateur, mes convictions politiques sont connues, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais je veux dire, comme observateur, j'avoue que je suis incapable, et je mets assez au défi les uns et les autres de le faire, résumer la position de Marine Le Pen.
Pour vous éclaircir là-dessus, la position du Rassemblement National, Marine Le Pen a toujours été très claire.
C'est intéressant.
Mais c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup, il a raison, mais
quand même. La position a toujours été très claire, c'est que nous sommes pour la vaccination, mais nous sommes surtout attachés à la liberté vaccinale, donc contre le pass sanitaire, qui de fait est une obligation vaccinale qui ne dit pas son mot, mais qui en est une, surtout à partir du moment où ils vont dérembourser les tests.
C'est pas clair, pardon de dire ça, c'est pas très clair.
Attendez, on a fait des communiqués de presse, il y a eu une vidéo de Marine Le Pen pendant tout l'été. Nos porte-paroles ont été sur les médias pour rappeler notre opposition au pass sanitaire, et 3 mois après, on nous demande encore...
Le Rassemblement National a été moins langue de bois par le passé.
Mais vous êtes pour la vaccination obligatoire?
Oui, c'est
non,
pas très clair.
La vaccination obligatoire. On pense qu'il faut laisser la liberté aux gens de décider si oui ou non ils veulent être vaccinés. Par contre, après, il est évidemment du ressort des autorités publiques, qu'elles soient scientifiques, politiques ou notamment des collectivités. Parce que vous avez parfaitement raison sur le fait que le gouvernement ne s'appuie pas assez sur ceux qui sont des élus de proximité, notamment sur les élus locaux des municipalités. À eux, après aussi, d'être convaincus.
Non, mais alors concrètement, excusez-moi, Valérie, juste. Mais concrètement, Marine Le Pen. Au pouvoir demain, concrètement, Marine Le Pen est au pouvoir demain. C'est pour le coup, c'est intéressant, je trouve. Si Marine Le Pen est au pouvoir aujourd'hui, mettons-nous dans cette situation fictive, mais possible.
On va quand même attendre l'élection présidentielle, on est démocrate.
Oui, non, mais c'est une hypothèse.
Je comprends pas très bien ce qu'elle fait. C'est concrètement. votre concert de black metal, on peut y entrer à quelles conditions? Je comprends pas.
Bah nous, on n'aurait pas mis en place de passe sanitaire tout court.
Donc vous pouvez rentrer en n'étant pas vacciné.
En fonction de la circulation du virus, en fonction du taux d'incidence.
Donc on peut rentrer en n'étant pas vacciné, c'est ça, c'est ce que vous dites.
Mais de toute façon, la vaccination n'empêche pas la contamination. Donc
nous faire croire,
vous allez empêcher la création de clusters alors que la vaccination ne permet. Mais bien sûr, les formes graves, mais pas la contamination, la diffusion.
Si vous êtes vacciné, mais c'est le monde. Attendez, Valérie.
Peu importe la contamination, si on
n'arrive pas à parler de sujet.
Pas tous en même temps. Ouais. 10 à 20 fois moins de contamination quand on est vacciné. Ce sont
pas
des
avec
chiffres...
les nouveaux variants. Il y en a
mais,
encore un qui est en train d'évoluer.
On n'y est pas avec ce qu'il y a aujourd'hui, les observations qui sont faites aujourd'hui. 10 à 20 fois de risque de se contaminer.
Et vous voyez l'actualité sanitaire en Israël. Vous voyez les inquiétudes d'un grand nombre de spécialistes et d'experts en la matière sur la question des variants.
Donc concrètement, vous nous dites que vous auriez laissé les gens se promener sans être vaccinés, c'est ça?
Non mais monsieur, donc, moi j'ai pas envie de rentrer dans cette espèce de débat un peu simpliste qui a été celui du gouvernement qui consiste à nous dire c'est ou les confinements ou la vaccination. Non, il y a énormément de choses à faire à côté. Il faut essayer de contrôler la diffusion par l'analyse des OUC. Je suis en train de vous le dire, laissez-moi terminer. Il faut contrôler, il faut pousser les analyses des OUC. Il faut mettre en place les systèmes de ventilation, les subventionner. Aujourd'hui c'est les collectivités qui le font alors que ça aurait été à l'État de le faire. Il aurait fallu aussi depuis un an et demi contrôler qui rentre et sort de nos territoires avec là pour le coup un passeport sanitaire, parce que je suis désolé.
Mal fait au début, mais non, je le reconnais.
Mais ça n'a même jamais été fait. À chaque fois qu'il y a une allocution du président de la République ou d'un porte-parole du gouvernement, il nous annonce, bon, cette fois c'est bon, on va contrôler le pass sanitaire des gens qui rentrent sur notre territoire. Mais ça, c'était la première mesure qui a été mise en œuvre par 90% des pays dans le monde entier dès mars 2020.
Donc il n'y a aucun membre du Rassemblement National depuis un an et demi qui s'est rendu à l'étranger, qui a fait des réunions publiques.
Sur cette question du pass sanitaire, ce que j'observe, c'est que de toute façon, la plupart des formations politiques, à l'exception d'offres politiques tout à fait périphériques que sont celles de M. Philippot et éventuellement celles de M. Dupont-Aignan, se sont tenues en distance. Alors, certes, quand même, ce qui fait foi pour le Rassemblement National, c'est quand même le vote de ces parlementaires qui ont voté contre, quand on suit l'actualité parlementaire, qui ont voté contre le pass sanitaire. Donc, de ce point de vue-là, leur position me semble en effet assez claire, même si elle n'a pas été extrêmement audible et très entendue, en tout cas. Mais vous voyez bien que ce qui se passe avec ces mobilisations anti-pass sanitaire, ce sont des mobilisations qui se font en dehors des offres politiques, en dehors des formations politiques. Oui, et moi, ce qui est intéressant avec ces mobilisations, après on en pense qu'on veut, on y est favorable ou on n'y est pas favorable, parce que c'est un autre débat et un autre sujet, c'est qu'elles traduisent quand même sur le fond, alors même si on a le sentiment qu'elles semblent aujourd'hui un peu refluées, mais elles traduisent quand même sur le fond quelque chose qui est absolument essentiel dans la vie politique française aujourd'hui, c'est que il y a toute un pan de la société qui ne se retrouve plus dans le champ politique français. Et là, on est véritablement au cœur même de la crise démocratique que nous vivons, et le vrai sujet, il est là. Et on verra d'ailleurs aux prochaines présidentielles, parce que moi, je suis quand même très, j'allais dire, impatient de voir quelle sera la mobilisation électorale aux prochaines présidentielles. Ce à quoi nous assistons quand même maintenant depuis 20 ans, 25 ans, c'est une baisse de la participation électorale, toute élection confondue, à l'exception notable de l'élection présidentielle. Et on verra, justement, si l'élection présidentielle de 2022... être une élection où on aura un taux de participation qui sera un taux de participation à peu près habituel à celui que l'on connaît lors de la présidentielle. Je n'en suis pas du tout sûr à ce stade.
Arnaud, juste une petite nuance.
Mais le vrai sujet, il est là.
C'est que vous regardez, c'est normal pour le scientifique que vous êtes, vous regardez l'ensemble du tableau.
Mais en l'occurrence,
vous regardez le citoyen, pour le professeur que vous êtes. Vous regardez le citoyen. Moi, pour le coup, je m'intéressais plutôt aux régaliens. C'est-à-dire que je m'intéressais pas tellement au mouvement anti-vax et au mouvement anti-pass. Je me demandais ce qu'une candidate qui est aujourd'hui la principale challenger d'Emmanuel Macron aurait fait dans la même situation. Et j'avoue que il y a aujourd'hui une forme de tactique de la part de Marine Le Pen, une tactique de communication qui est intéressante, qui est de se taire sur à peu près tous les sujets, à part les sujets, disons, les plus balisés pour sa famille politique. Et on a quand même l'impression que sur des sujets qui sont des sujets régaliens assez fondamentaux pour le pays, elle a tendance quand même beaucoup à jouer la stratégie du silence. Et je trouve assez inquiétant, je parle pas forcément que pour Marine Le Pen, mais c'est valable aussi à certains égards pour les candidats de gauche, etc., que des candidats à la fonction suprême dans notre pays, dans une situation de crise extrêmement grave, ne soient pas capables d'élaborer une doctrine et de dénoncer simplement de façon extrêmement simple.
Mais même, c'est juste que vous n'êtes pas abonné finalement à l'actualité du Rassemblement National de Marine Le Pen.
Vous n'avez pas forcément un regard, on va dire,
un peu plus attentif sur ce que nous disons et nous proposons.
Arnaud dit que vous avez voté contre le pass sanitaire. Un auditeur me dit c'est faux, le RN n'a pas voté, ils étaient absents.
Nos députés lors du vote étaient bien à l'Assemblée nationale. Il y a des votes qui sont faits, on peut donner aussi des mandats et compagnie. Ils ont bien voté contre à l'Assemblée nationale et au Sénat. On a été d'ailleurs la seule formation politique à n'avoir absolument aucune hésitation sur ce sujet-là.
Enfin, moi, il y a un autre sujet sur la question quand même des libertés publiques qu'on évacue quand même de manière un peu rapide, à mon sens. C'est un avis très personnel. C'est que je suis quand même très surpris que là aussi, la plupart des forces parlementaires d'opposition ne soient pas montées au créneau. Moi, je pense qu'il y a quand même il y a un problème chez les Républicains. Quand on est libéral, je veux dire, on est en droit de s'interroger sur la multiplication des états d'urgence. On est en droit de s'interroger sur la multiplication des états d'urgence dans ce pays. Parce que moi, je veux bien le pass sanitaire, mais déjà, M. Véran nous annonce qu'il est possible que le pass sanitaire soit prolongé après le 15 novembre. Ce qui se passe n'est pas anodin. Je veux bien que la préoccupation sanitaire soit une préoccupation forte, en l'occurrence, mais quand même, on est en train de restreindre la vie normale de... millions de Français. Il peut y avoir quand même un débat dans ce pays, qui est une démocratie libérale, sur la question de la façon dont on use et dont on abuse, me semble-t-il, des états d'urgence.
Le débat, il a lieu. Il a eu lieu. Et je vais te donner dans l'opposition, les Républicains...
Aucun intellectuel sur le débat.
Non, mais on a eu quand même deux leaders. François-Xavier Bellamy, par exemple, et Loïc Hervé, qui est de mon parti, est le chantre des libertés individuelles et s'est prononcé contre le pass sanitaire. Je voulais juste revenir, et là, parlons vrai, c'est une radio qui parle en vrai, sur les manifestations. On s'interroge quand même beaucoup. 200 000, mais 200 000, finalement, c'est pas beaucoup.
Quand on sait...
100 000 en été, on sait que la moitié des Français ne sont pas partis en vacances. 200 000, c'est non plus pas énorme.
On verra à la rentrée.
Et puis, il était constitué de tellement petits groupes disparates, complètement différents entre l'extrême gauche, l'extrême droite, les anti-vax, etc.
L'hétérogénéité,
finalement, c'est une manifestation. Il faut y prêter attention, il faut les écouter, mais il ne faut pas non plus s'inquiéter outre mesure que cela. Il faudra s'inquiéter à la rentrée, s'y agrège des gilets jaunes plus importants et à cause de la crise sociale et économique.
On n'a toujours pas fini notre tour de table, on est obligé de marquer une petite pause, mais on va y revenir avec le coup de gueule d'Arnaud et le coup de cœur de Mehdi. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on va parler de Marseille, de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille, coup de com' ou volonté réelle de faire bouger les choses. Est-ce qu'on peut faire bouger les choses en matière de délinquance, de trafic de drogue? On en reparle avec vous dans un instant. Continue notre tour de table, mais moi j'aime bien quand ça part dans d'autres directions. Mehdi, on va rester sur notre sujet de vaccination, qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais je crois que ça concerne la vaccination, votre coup de cœur.
Oui, d'ailleurs, c'est un coup de cœur un peu ambivalent, parce que moi j'étais très favorable, je suis très favorable pour le coup à la vaccination obligatoire, notamment pour tous les personnels qui ont des fonctions aussi importantes que les fonctions de soins, les soignants, les pompiers, l'assistance avec évidemment les policiers, la répression, etc. Et puis évidemment, moi je disais les enseignants, parce que je vois pas comment avec des enfants qui souvent ne seront pas vaccinés en raison de leur âge, on pouvait ne pas vacciner les enseignants. Bon, et alors il se trouve que les enseignants nous ont en cette rentrée, et je leur souhaite d'ailleurs une excellente rentrée à tous, c'est leur rentrée aujourd'hui. Nous ont réservé une bonne surprise.
La pré-rentrée. Ils nous ont dit qu'Evelyne Bossuet hier.
Avant qu'ils nous débarrassent de nos enfants demain. Donc les enseignants ont une.
Ils vont être contents, vos enfants.
C'est enfin la fin des vacances, pensent beaucoup de parents et de grands-parents surtout. Plus sérieusement, les enseignants nous réservent une bonne surprise dans cette rentrée, c'est qu'ils ont un taux de vaccination qui est plus élevé, même beaucoup plus élevé, significativement, puisque c'est entre 10 et 15 points de plus que la moyenne nationale sur les adultes. Et donc, il y a quelque chose d'assez intéressant, et sur les deux d'ailleurs, hein, sur la première dose comme sur les deux doses, Et donc, on a comme ça un corps enseignant qui, quand même, montre l'exemple, se range du côté de la raison, du côté de la science, qui montre aussi à la nation que, malgré les difficultés, parce que quand même, ils ont eu une année et demie quand même assez bousculée, assez compliquée avec les enfants et les confinements gérés, etc. Bon, les parents aussi, mais enfin, les enseignants ont dû beaucoup s'adapter. Eh bien, ils montrent qu'ils veulent aussi prendre soin des enfants dont ils ont la charge et veiller à ce que la situation s'améliore. Je trouve que le corps enseignant dans son ensemble, sans qu'il y ait eu besoin de prendre de mesures obligatoires, vraiment se distingue très positivement, et je trouve que c'est vraiment très agréable quand même quand des fonctionnaires comme ça montrent l'exemple et sont capables de dire à la nation, voilà, le chemin positif pour s'en sortir, c'est plutôt celui-ci. Voilà. Ouais. Et après, évidemment, il y a une partie plus frictionnelle en économie, on dirait frictionnelle, de quelques pourcents d'enseignants qui ne souhaitent pas se vacciner, mais pour plein de raisons, y compris des raisons tout à fait comparables à celles qu'il y a dans le reste de la population.
Il parlait de la vaccination là des jeunes. Je vais vous donner un scoop, mais on est en train de préparer la rentrée dans le 15e et on s'est aperçu que 50%, parce qu'il faut qu'on vaccine maintenant un collégien, un lycéen, et c'est une organisation terrible. On est obligé de, l'Amérique a un centre de vaccination, donc on va faire le matin les enfants, l'après-midi les adultes, et puis on va envoyer les médecins. Là aussi, le gouvernement a en cœur de l'été nous annonce un plan, alors que tous les employés de la mairie sont absents. C'est une machine. Chine a installé, on en a passé hier avec Philippe Bougeon, une nuit entière à essayer de comprendre le truc. Et on s'est aperçu que 50% des collégiens et des lycéens étaient déjà vaccinés. Ouais. Donc c'est quand même assez positif.
Ouais. Positif. Vous êtes d'accord, Gaëtan Dussault ?
Mais je n'ai absolument aucune opposition à la vaccination. C'est un outil formidable. C'est pas le seul, c'est un outil formidable.
C'est le fameux silence du Rassemblement national dont on parlait il y a quelques instants.
Non, personne n'a rien dit. C'est moi qui l'ai relancé.
Vous êtes taquine, Valérie.
Voilà. Arnaud, vous, c'est un coup de gueule international.
C'est un constat en politique internationale. Depuis la chute de Kaboul et la prise du pouvoir par les talibans, il y a une petite musique qui s'est installée selon laquelle les talibans auraient changé. Et on a même parlé, un ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, pour ne pas le nommer, a parlé éventuellement de talibans exclusifs. Alors,
c'est
psychanalytiquement, ça veut dire quelque chose, en l'occurrence, même si il n'a pas la paternité de cette expression, puisque c'est une expression qui a été employée par l'administration américaine. Moi, je trouve que c'est extrêmement inquiétant de tenir ce type de discours. Alors, certainement, je veux dire, la situation en Afghanistan pour les Occidentaux était intenable. Et puis, de toute façon, il faut aussi partir du fait que si les talibans l'ont emporté, c'est qu'il y a un substrat socio-culturel qui leur a permis, malheureusement, on peut le regretter en Occident, mais en tout cas, de l'emporter aussi, j'allais dire, facilement. La réalité, c'est que les talibans n'ont pas changé. Le logiciel politique des talibans n'a pas changé d'un iota. Ce qui a changé, et ça c'est assez intéressant, c'est qu'ils ont tiré les enseignements de leurs erreurs d'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'ils ont compris que pour asseoir leur pouvoir, il fallait qu'ils aient une reconnaissance internationale. C'est-à-dire pour se légitimer et s'installer dans la durée. Alors, en effet, aujourd'hui, ils ont, j'allais dire, une forme... Ils ont appris les rudiments de la communication, d'une certaine manière. Alors, avec, bien évidemment, beaucoup d'aléas, parce que quand on voit, par exemple, les images de ce présentateur du journal télévisé afghan entouré de 7 ou 8 talibans surarmés. On est là dans une scène qui est absolument surréaliste, mais qui dit quelque chose sur la nature profonde de ce mouvement. Et l'autre aspect, c'est de considérer aussi qu'il y a une opposition frontale aujourd'hui entre Daesh et les talibans. Alors certes, il y a des oppositions entre Daesh et les talibans. Mais attendez, d'abord, les talibans, c'est pas un bloc homogène. Ce sont des tribus, c'est très hétérogène. Et on sait très bien qu'il existe. Gilles Kepel, qui est quand même un des meilleurs spécialistes sur la question aujourd'hui, le rappelait tout récemment. Il existe une porosité entre certains groupes talibans et Daesh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, penser qu'on est face à une situation qui est fondamentalement nouvelle par rapport à celle que l'on a connue il y a 20 ans, à mon sens, sens, c'est une volonté d'auto-justifier finalement notre défaite sur le terrain, parce que c'est une défaite, qu'on le veuille ou non, sur le terrain. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'il fallait rester, ça me paraissait assez difficile. Enfin, les conditions dans lesquelles on part sont quand même une humiliation extrême pour les Américains et par ricochet pour les Occidentaux. Alors, en plus, avec le fait que nous autres Européens, nous allons gérer en première ligne la crise migratoire qui est en train quand même de voir le jour. Il y a aussi cela. En tout cas, juste, c'est un coup de gueule, en effet, mais c'est pour dire que véritablement, je crois qu'il ne faut pas se tromper, que le discours qui est mené, et je viens d'apprendre d'ailleurs que les Allemands sont prêts à reconnaître les talibans. Le ministre des Affaires étrangères allemand a ouvert cette voie pas plus tard que ce matin en étant au Qatar. Je trouve quand même qu'il y a quelque chose d'assez inquiétant dans la façon dont nous sommes en train de réagir par rapport à ce qui est en train de se passer à Kaboul.
Même Jean-Baptiste Lemoyne, hein, hier, qui était invité sur une autre antenne, était pataugé un petit peu dans des conditions d'échange avec les talibans. Il ne savait pas très bien...
Alors évidemment, bien sûr, parce que vous avez des pays qui sont structurellement comme la Chine, la Russie, discute ouvertement avec les talibans et qui se pose pas en effet les problèmes que nous autres occidentaux nous posons. Ouais. Mais je veux dire, de la réalpolitique quand même, au respect à la défense de nos valeurs, je pense qu'il y a une articulation à avoir et je crains qu'on ne l'ait pas.
Moi, je voudrais dans le sens de Arnaud, c'est un sujet que je connais bien. J'avais rencontré au mois de mars, pendant une heure, j'avais eu cette chance inouïe de rencontrer le fils Massoud. Et Ahmad Massoud, il y a donc au mois de mars, m'avait décrit mot pour mot, virgule après virgule, ce qui allait se passer. Et ne soyons pas naïfs. Et tu as raison de le dire. Les talibans qui sont aujourd'hui au pouvoir sont des guerriers. Ils ne connaissent que la guerre. Leur but d'ailleurs de vivre, c'est la guerre. C'est d'ailleurs les mêmes talibans qu'on trouve cette année, qui étaient il y a 20 ans les mêmes guerriers. Ils n'appliqueront la charia.
Ils l'appliquent déjà.
Ouais, donc ce sont des guerriers. Et donc,
C'est vrai que cette notion d'inclusif est choquante.
Il faut entamer probablement très vite une diplomatie secrète, en tout cas avec les talibans, pour permettre un nouveau pont aérien d'urgence, parce qu'il reste quand même près de 2500 Afghans ou familles afghanes qui sont sur le sol de Kaboul. Il faut absolument donc une diplomatie secrète. Voilà.
Alors, il faut qu'on marque une pause. Gaëtan, je vous donnerai la parole après. Et puis Mehdi aussi, si vous voulez réagir sur l'Afghanistan. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Et nous allons parler de Marseille, évidemment, dans un instant, mais je voulais vous faire réagir sur le coup de gueule d'Arnaud Benedetti sur ce terme de taliban inclusif, comme si les talibans avaient pu changer. Quand on voit, peut-être réécouter ce qu'on a entendu dans le zapping ce matin, le témoignage de Bernard-Henri Lévy, à qui on peut reprocher beaucoup de choses, mais qui connaît l'Afghanistan. Écoutez ce qu'il disait hier.
Ils ont déjà fait le contraire. Par exemple, la musique. Ils ont assassiné, il y a quelques jours, quelqu'un que je connais. Il se trouve que je l'ai connu en 2002, quand j'étais l'envoyé spécial de Chirac en Afghanistan. Il s'appelait Monsieur Fawar Andarabi. Il a été exécuté dans des conditions abominables. Pourquoi ? Parce qu'il était musicien. Là, il y a 10 jours, il y a un caricaturiste qui s'appelle Kasha Zvan. Il a été torturé à mort, lynché à mort, lapidé, on lui a cisaillé les muscles des bras, et ça encore il y a quelques jours.
Voilà. Donc, et on apprenait aussi un jeune homosexuel qui a été piégé par des talibans, qui a été tabassé, violé et contraint de donner son numéro de téléphone pour prévenir ses parents. Vous vouliez réagir, Gaëtan Dussausset, sur ce qui se passe en Afghanistan?
Ouais, non, mais tous ces faits, ces monstruosités rappellent que les talibans sont évidemment un danger et une menace sérieuse, notamment non seulement déjà pour une partie du peuple afghan, mais aussi pour les pays limitrophes. On sait aussi qu'il y a un risque quand même avec la prise de Kaboul par les talibans de la reconstitution d'un califat islamique, notamment sur toute l'Afrique subsaharienne. Donc raison pour laquelle il faut quand même rester assez vigilant. Je sais que le départ des troupes françaises date d'il y a plusieurs années, maintenant également les États-Unis, mais on est encore sur un autre front, même si ça a été un peu épuré, sur le front malien. On est d'ailleurs le seul pays européen qui est engagé financièrement, humainement, pour pouvoir justement endiguer la vague islamiste dans ce territoire. Donc là-dessus, c'est peut-être un des secteurs où la coopération européenne évidemment manque aussi. Maintenant, on en parlait, hein, sur... que doit être le rôle du gouvernement français, comment il doit discuter, est-ce qu'il doit discuter ou pas avec les talibans, etc. Moi, je pense encore une fois, le gouvernement, parce qu'avant d'être gouvernement, il est avant tout français, sa mission première, c'est de protéger le peuple français. Et on a suffisamment pâti de la crise migratoire des années 2010, lorsque la France s'est retrouvée à faire le SAV de la décision d'Angela Merkel d'accueillir plus d'un million de migrants en 2015, pour ne pas reproduire exactement les mêmes erreurs. Donc, on appelle évidemment à Macron à la vigilance, à la prudence, et à dire fermement, comme le chancelier autrichien d'ailleurs, Sébastien Kurz, qu'on n'accueillera pas d'Afghans sur notre territoire.
Mais je vous
à l'exception réponds... des auxiliaires de l'armée, ça ne
change pas. Attendez, Mehdi ne s'est pas exprimé sur le sujet. Mehdi.
Oui, moi je crains, notamment en entendant ce qu'on vient d'entendre, que la logique des gouvernements européens et des gouvernements occidentaux, mais on est en première ligne sur la question migratoire, parce qu'évidemment on est voisins à certains égards. C'est vraiment pas si loin que ça. Il faut mettre ça dans la tête des gens, c'est qu'on est relativement voisins. La crainte que j'ai, c'est que les gouvernements européens aient quand même la mauvaise tendance de vouloir gérer leur opinion nationale avant de gérer le régalien et avant de gérer les intérêts fondamentaux de la nation. Je m'explique, c'est-à-dire que vouloir passer une espèce de deal un peu mauvais avec les talibans sur la question de la crise migratoire, comme on l'a fait d'ailleurs avec des gens très sympathiques comme Erdogan en Turquie, au passage en abandonnant les gens qui ont défendu les intérêts français, qui ont défendu les intérêts de la France, comme nos interprètes, comme nos amis sur place qui ont participé aux renseignements, etc. Exactement comme on a abandonné les combattants du Kurdistan dans la lutte face à Daesh, puis face à Erdogan, je crains malheureusement qu'à force de trahir nos alliés les plus proches, nos amis les plus proches, ceux qui se battent exactement pour nos valeurs, pour les valeurs de la France, pour les valeurs des Lumières, pour les valeurs de la République, sur le terrain depuis des années, depuis parfois des décennies, il faut comprendre ça. Et en plus, en les abandonnant de la pire des façons, c'est-à-dire en laissant, par exemple, en ce moment, les athlètes afghanes, des jeunes femmes qui sont en train de brûler leurs trophées, les trophées qu'elles ont durement gagnés, de peur d'être démasquées et d'être lapidées, assassinées dans leur pays. On parlait de Fawad Al-Darabi, qui est un chanteur afghan qui était extrêmement réputé. Tous ces gens qui... Il faut comprendre ce que ça veut dire de faire de la musique en Afghanistan ces 20 dernières années, ces 30, ces 40 dernières années. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Et donc, simplement entendre des gens qui, assez confortablement, sur des plateaux de télévision, je le dis pas pour Monsieur Dissocié, je le dis parce que c'est un peu généralisé comme opinion, hein. C'est quelque chose qui s'est quand même infiltré beaucoup dans l'opinion française. Dire « Ah ben non, mais il suffit de mettre un grand mur parce qu'on n'aime pas les... on n'a pas envie d'avoir d'Afghans ici », tout ça est un peu simpliste et je crains que ça nous conduise à passer des deals et passer des marchandages assez dangereux pour les intérêts de la nation à la fin, avec des gens assez peu recommandables. Simplement sur les talibans, la seule chose qui peut nous rassurer légèrement, je ne sais pas si c'est vraiment le cas quand on voit évidemment le 11 septembre, c'est que pour l'instant, même s'ils ne sont pas, ils sont très très loin d'être inclusifs et que ce sont des barbares absolus, pour l'instant, ils n'ont pas affirmé, contrairement à Daesh, d'intention internationaliste.
Et donc, ce matin, il y avait, nous irons combattre les infidèles sur leur terrain,
pour l'instant, faut pas se leurrer là-dessus.
J'ai aucune naïveté sur le sujet. Simplement, pour finir là-dessus, je veux dire simplement qu'ils ont probablement tiré les leçons de Daesh. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont compris que la projection sur des territoires étrangers de leurs propres combattants, etc., pouvait leur coûter très cher chez eux. Et donc, je pense que ce sont des gens qui ont vécu quand même plusieurs guerres face à des hyperpuissances et que donc, ce sont des gens qui vont souhaiter, consolider leur pouvoir chez eux.
C'est la base arrière, confondons pas d'ailleurs Al-Qaïda et Daesh, à la fois l'État islamique, Daesh, pour toute la zone nationale, intranationale, parce que Daesh rêve d'imposer son califat dans un pays.
Rapidement, je voudrais qu'on parle de Marseille, il nous reste pas beaucoup de temps.
Avec qui ils entretiennent des liens très très flous.
Non, juste un dernier petit point. Moi, ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que ce qui se passe en Afghanistan va avoir un impact sur la décision finalement de retrait, qui est impulsée quand même en France, de nos troupes en Afrique subsaharienne. Et ça, je constate que c'est un non-sujet pour l'instant. On va voir.
On n'entend pas parler.
Tout à fait, oui.
Allez, je voudrais qu'on parle de Marseille. Donc Emmanuel Macron entame aujourd'hui cette visite de 3 jours, éducation, sécurité, transport, rénovation urbaine. Donc le président de la République veut se pencher sur les fragilités de Marseille durant sa visite. La plus longue dans une seule ville depuis le début de son quinquennat. Ce que je disais tout à l'heure aux policiers que j'avais en ligne. Moi, je m'étonne qu'on s'étonne de ce qui se passe à Marseille. Marseille, de l'état dans lequel est Marseille. Rafik Smati nous a raconté l'année dernière, ici même, être allé à Marseille dans les quartiers nord, avoir été arrêté à un checkpoint. Donc là, toutes les chaînes d'infos, les chaînes, les talk shows passent ces images de quotidien en disant « Mon Dieu, il y a des checkpoints ». Bah oui, tout le monde le sait, ça existe. Et donc, on annonce 1 milliard d'euros. Est-ce que l'argent peut sauver Marseille? On rappelle le plan Hérault, hein, en 2013, 2,5 milliards. 2013. Gaëtan Dussausset, c'est de la com. Il y a plusieurs sujets. Il y a l'état dans lequel se trouve Marseille et puis cette visite. Il y a plein de choses.
Non, mais c'est ça. Mais ça étonnera personne. Et on peut s'y attarder quelques minutes dessus. Mais de toute façon, Emmanuel Macron, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une action qui l'a fait depuis le début de son mandat qui n'est pas calculée en fonction de l'opinion, de ce que ça va influer ou pas dans l'opinion publique, sur son électorat. Tout est c'est un président de communication. Il n'a fait que ça. Et là, évidemment, on se dit, voilà, on est à 8 mois d'une élection présidentielle dans l'une des plus grandes métropoles du sud de la France, et comme par hasard, alors que c'était une ville qui lui était pas forcément des plus acquises, puisqu'on sait que notamment les candidats Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont fait des scores assez élevés lors de la dernière élection présidentielle de 2017, bon bah là d'un seul coup il y a eu une attention particulière du chef de l'État d'Emmanuel Macron, donc ça personne n'est dupe. Maintenant la question c'est de savoir ce qu'il faut véritablement faire sur place, parce que si, il s'y déplace un peu comme le fait dans un premier temps Gérald Darmanin, qui nous explique. Attendez, monsieur Mehdi, vous aurez temps de répondre. Attendez, laissez-moi terminer.
C'est une question sincère.
Alors, laissez-le terminer. La question de Mehdi, qu'est-ce que vous
avez fait? Non, mais la question, c'est. Moi, j'entends le. Je suis assez d'accord d'ailleurs sur le diagnostic sur Macron, mais quel est le programme, par exemple, du RN sur Marseille?
On peut déjà commenter ce que propose le président en place, et si vous voulez, je vous dirai ce qu'on fera dans 8 mois.
Déjà commentons, parce que si vous dites que vous êtes d'accord avec ce que dit Gaëtan Dussausset, à savoir que, bon, c'est une visite qui. Au final, ne risque de pas changer grand-chose. Écrit le coup de com' permanent.
Arnaud Benedetti. Albert Londres disait que Marseille, c'était la porte du Sud, c'est la porte pour de la présidentielle, pour Emmanuel Macron. Il y a plusieurs enjeux. D'abord, on voit bien que sa visite, il la décline autour de quoi? Du social et du régalien. Le social, l'école, d'une certaine manière, le logement, le transport, puis ensuite le renforcement d'un certain nombre de moyens qui avaient d'ailleurs été annoncés par Gérald Darmanin, je crois, 300 policiers de plus à Marseille, alors que le maire de Marseille dit qu'il en faut 800. Donc on est très en deçà des besoins manifestement qui sont exprimés par la municipalité. Donc il y a la volonté de Macron, là, de décliner un certain nombre de thèmes. Deuxième sujet qui me paraît important, c'est que Marseille, au-delà de ce que représente Marseille un peu dans l'imaginaire national, c'est que il y a une scène politique assez spécifique aujourd'hui dans cette zone. Il y a un certain nombre d'élus azuréens ou des Bouches-du-Rhône ou du Var qui sont très proches d'Emmanuel Macron. Donc ce déplacement n'est pas tout à fait innocent. Il s'agit un peu de faire turbuler le système aussi à droite en envoyant des signaux dans une région où la droite républicaine et le centre sont extrêmement présents. On est clairement, il faut être très clair, dans une pré-campagne présidentielle avec, en effet, un cortège de ministres, monsieur Dupond-Moretti, monsieur Blanquer.
Non, alors il n'y va pas apparemment, Dupond-Moretti.
Il était prévu en tout cas dans le programme initialement, donc ça a changé. Mais voilà, on est véritablement dans ce. Et puis alors, il y a un dernier sujet, c'est de se substituer aux collectivités locales d'une certaine manière et de montrer que il le fait aussi comme ça, de montrer que finalement, dans cette ville, pendant 30 ans, 40 ans, le vieux monde des barons locaux n'a rien fait et que ça lui permet de réactiver son logiciel volontariste après, bien évidemment, la crise sanitaire que l'on connaît.
Effectivement, ce que dit Mehdi, c'est pas totalement faux.
Plus que la classe politique marseillaise. Je le dis, par ailleurs, il y a eu des élus à peu près, c'est un endroit où il y a eu des élus d'à peu près tous les bords qui ont occupé des rôles importants, que ce soit de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre. Bon, quand même, Marseille est une ville qui a été une ville relativement abandonné.
Dans notre imaginaire collectif,
Marseille, c'est Marseille. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'un peu sale, d'un peu étranger, d'un peu dangereux, mais au fond sympathique, avec un gros accent.
Là, vous êtes en train de parler du charme de Marseille.
Et voilà, avec une spécificité marseillaise. Le problème, c'est qu'on sait, quand même là, maintenant, on est arrivé à un stade où la situation à Marseille, avec notamment la plateforme de gestion de la drogue, parce que c'est devenu ça, la plateforme de gestion de la drogue qui est devenue Marseille, avec les 100 000 personnes qui vivent dans des logements vétustes, avec des écoles qui sont des écoles de fait poubelles, qu'aucun autre territoire en France n'accepterait d'avoir sur son territoire pour ses enfants, on voit bien que tout ça est en train de dégénérer. Et donc, évidemment, même s'il y a de la com' derrière la visite de Macron, la vraie question, c'est quelle est l'alternative ? C'est-à-dire que si on, à un moment donné, on n'est pas capable de dire « Bon, attendez, tout ça doit s'arrêter, il doit y avoir une limite à tout ça, on ne peut pas continuer avec, effectivement, des checkpoints dans les quartiers nord au lieu d'avoir des transports qui fonctionnent, d'avoir
Vous croyez, je vois pas l'opposition. Non, moi, exemple, entre le checkpoint et les transports.
Non, mais parce que je pense que les deux vont de pair. Je pense que Valérie, moi, je suis très.
Il y aura des transports, il n'y aura plus de checkpoint.
Vous connaissez mes positions sur le sujet. Oui. Moi, je suis pour, par exemple, quelque chose qui ne sera pas fait pour l'instant, mais moi, je suis très favorable à un parquet spécial. C'est-à-dire, moi, je suis pour qu'il y ait un comme on fait aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y ait un procureur spécial qui soit chargé de nettoyer la criminalité, notamment la criminalité liée à la drogue à Marseille. Je crois que
le lien entre transport et checkpoint, parce que quand même,
même si vous avez un mal endémique que sont les dealers, que sont les criminels, que sont les gens qui pourrissent la vie des quartiers et qui pourrissent la vie de nos concitoyens, il y a quand même tout autour. Il y a quand même aussi les 40 000 logements insalubres à Marseille et les écoles. C'est pas les dealers. Les écoles, où la peinture tombe sur les gamins pendant qu'ils sont en classe, c'est pas les dealers. Donc il y a
trois réactions. Table, c'est une opération de com à quelques mois de la présidentielle. Il arrive comme sauveur à Marseille avec de l'argent pour et ça c'est le plan de rénovation.
Il est supporter de l'OM aussi.
Je rappelle que ce plan de rénovation était dans le plan Borloo, que Borloo avait présenté au président de la République et qu'il avait jeté d'un revers de main. Donc oui, mettre de l'argent parce que les collectifs de Cannes n'ont pas assez d'argent. Ça demande des milliards et des milliards. Les piscines sont dans des états mais lamentables. Oui. Deuxièmement, est-ce que ça va résoudre le problème de la drogue ? Non. Alors moi, j'ai peut-être sur ce plateau un discours totalement différent. Moi, je suis pour la légalisation du cannabis, pour l'encadrer par l'État, le légaliser, le vendre, le produire par l'État. Mmh. Et ça permettrait effectivement, alors là, fini les checkpoints, fini les dealers de...
Il y aura le shit,
il n'y a pas que le cannabis dans le trafic.
La cocaïne reste quand même par rapport au cannabis.
On reconnaît l'échec de l'État à avoir réussi à endiguer ou à mener une lutte efficace contre le trafic de drogue. Et donc, du coup, on se dit, il faut légaliser le cannabis.
Croire que les dealers vont
aller mettre une cravate, ouvrir un coffee shop
et
déclarer leurs impôts, c'est une déclaration.
C'est vos éléments de langage.
Personne ne va aller faire ça.
C'est vos éléments de langage du Front National.
Ce qu'il faut leur faire, c'est de la fermeté. C'est une justice qui fasse son boulot. C'est ça qu'on attend.
C'est pas les 200-300 policiers, les syndicats de police rigolent. C'est pas les 200-300 policiers qui vont changer la donne.
Ça n'a aucun intérêt.
Et les expériences au Canada, dans certains États, aux États-Unis, marchent très bien. Alors, je dis pas tout de suite qu'il faut légaliser. Il faut en tout cas avoir un vrai débat national et peut-être à l'occasion de cette présidentielle sur légalisation ou pas du cannabis, parce que de toute façon, on n'y arrivera pas. Ce sont des cartels et des mafias tellement puissantes que l'État même français est impuissant.
Allez, on doit marquer une pause et on continue. 0826 300 300 si vous voulez participer au débat. Bienvenue.
Sud Radio 10h midi, débat.
Débat et nous parlons de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Visiblement, tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est principalement de la communication. Néanmoins, il reste que Marseille rencontre un certain nombre de problèmes. Alors, ce n'est pas la seule ville en France, mais c'est vrai que ces images de checkpoints, ces règlements de compte très violents posent question. Donc, tout à l'heure, Nicolas Jeannetet parlait de la légalisation du cannabis. Je ne sais pas si c'est... Quelle solution ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a plein d'argent qui a déjà été déversé sur la ville.
Des milliards.
Donc, est-ce qu'il y a un problème ? Alors, tout à l'heure, vous représentez représenter un parti politique, le Rassemblement National, Gaëtan Dussossé, et Mehdi Ouraoui, vous savez, que ferait le Rassemblement National ?
Je pense que la première chose à faire, c'est faire preuve de fermeté, parce qu'il y a un laisser-faire. On disait tout à l'heure, vous aviez parfaitement raison là-dessus, ajouter 300 flics, si c'est pour arrêter des gamins qui sont ensuite en liberté au bout de 48 heures, ça n'a aucun intérêt. Il faut déjà que la justice fasse son boulot, que quand quelqu'un commet un délit ou un crime, il y ait la certitude de la poursuite, la certitude de la condamnation et l'effectivité ensuite de la peine qui a été prononcée. Mais ensuite, il y a aussi d'autres sujets, parce que, voyez-vous, dans toutes ces zones... Alors d'ailleurs, ça me fait rire, parce qu'aujourd'hui, on peut enfin parler de zones de non-droit, on peut enfin dire qu'il y a des no-go zones, comme disait Donald Trump à l'époque, etc. Il y a encore 5 ou 10 ans, c'était tabou. Dès que vous en parliez, on dit « Oh non, mais on surfait sur les peurs, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, etc. » Donc déjà, je me réjouis que la réalité ait rattrapé un peu le débat politique dans notre pays. Mais il y a aussi un autre sujet, c'est que toutes ces zones urbaines ultra saturées, parce que trop d'habitations, parce que il n'y a pas assez de moyens, de budget et compagnie, on ne peut pas aborder la question de la saturation urbaine si on ne pose pas d'abord la question préalable du débat autour de notre politique migratoire. Parce qu'avec 400 000 nouvelles entrées chaque année sur notre territoire, on ne fait qu'ajouter du désordre au désordre déjà existant. Enfin, coupons le robinet, réglons les problèmes et ensuite on pourra
la situation aujourd'hui telle qu'elle est, il y a des gens qui sont là, qui sont français, qui sont
d'où le préalable d'avoir aussi une justice qui fasse son travail. Si quelqu'un commet un délit suffisamment important, il doit être en prison, ne doit pas être relâché par des remises de peine ou je ne sais autre encore quelques exceptions législatives. Et s'il est étranger ou à la double nationalité, c'est déjà en nationalité et dehors. Je rappelle quand même qu'il y a à peine 15% des OQTF, c'est-à-dire les obligations de quitter le territoire, qui sont effectivement réalisées dans le pays.
26 000.
C'est quand même, de façon un peu dépassionnée, hein, je trouve que c'est un peu quand même le poids mort du Rassemblement National, c'est qu'on voit quand même que vous avez une difficulté, mais c'est pas, je le dis vraiment, n'y voyez vraiment pas du tout d'esprit polémique parce que c'est pas le cas, mais je trouve que c'est intéressant de voir que pour un parti qui a vraiment, pour le coup, progressé électoralement, et même à certains égards en respectabilité, et même à certains égards en capacité à gouverner. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez du mal à sortir de vos fondamentaux qui sont en gros de répondre à peu près à toute question par sécurité immigration.
C'est le sujet à Marseille, désolé monsieur, c'est le sujet quand même.
Non, mais après, on peut penser ce qu'on veut. Mais enfin, moi, je crois qu'à Marseille, il y a plein de sujets. Je crois qu'à Marseille, c'est peut-être le seul point positif qu'on peut trouver dans la visite d'Emmanuel Macron, c'est que c'est une visite, pour le coup, à 360 degrés. Il y a quelque chose d'intéressant sur le fait de dire, attendez, là, il y a quand même un sujet. C'est-à-dire qu'on peut être très dur, comme moi, je peux l'être, sur le respect de la loi républicaine, mais quand même ne pas se voiler la face sur le fait que les gamins, et qui sont effectivement des gamins français ou étrangers, mais enfin, qui sont quand même très majoritaires des gamins aujourd'hui français, vont dans des écoles qui sont dans des écoles où il y a des rats. Et donc je crois que c'est un peu faible comme réponse de dire simplement aux gens, bon, on va couper un robinet un peu imaginaire, on va avoir une réponse
qui ferme. On demande quoi faire. En fait, si vous voulez, quand on arrive au pouvoir, il faut d'abord prendre une première décision. Ensuite vient une seconde décision. Moi, je pense qu'il faut d'abord tout miser sur la question de la sécurité et de l'immigration dans un premier temps. Mais ça n'empêche pas de faire le travail derrière. Je dis juste que les conditions préalables avant de vouloir mener des politiques sociales, des politiques de rénovation urbaine, des politiques d'accompagnement. Moi, par exemple, je crois énormément dans l'éducation spécialisée. Ils font un travail exceptionnel. Ils connaissent les gens. C'est des agents de proximité qui connaissent les familles, qui peuvent discuter, notamment avec les jeunes, etc. Il y a énormément de choses à faire. Mais le préalable à tout ça avant, c'est d'avoir une justice qui fasse son boulot pour que l'État soit respecté partout.
Attendez, on va faire tourner un petit peu la parole.
Il y a plusieurs éléments. En effet, la réponse pénale doit être plus rapide et vraisemblablement souvent plus ferme qu'elle ne l'est, mais pour qu'elle soit plus rapide, qu'elle soit plus ferme, il faut que donner des moyens aussi, qu'on le veuille ou non, à la justice, parce que le fait que la justice aussi soit lente aujourd'hui, c'est lié quand même, malgré tout, à une absence d'allocation de moyens. Donc ça, c'est une réalité. Deuxième sujet, et qui est lié au premier, c'est la question de l'État. En effet, mais si vous voulez, ça fait maintenant 30 ans en France qu'on assiste à un désengagement de l'État sur un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs stratégiques, qu'il s'agisse de l'éducation, de la recherche, et Marseille, de ce point de vue-là, me semble condenser à sa façon ce désengagement de l'État. Et le troisième point, sur la question de l'immigration... moi, je pense que le problème, c'est qu'il faut en revenir à un logiciel politique qui est celui de l'assimilation. Cela fait près de 30 ans, voire de 40 ans, qu'on a laissé tomber ce logiciel politique. Hein, au nom de l'intégration, et maintenant au nom, je ne sais pas de quoi, d'une espèce d'inclusion ou de diversité qui, de fait, est en train de détricoter la façon dont on a construit des Français dans ce pays. La façon dont on a construit des Français dans ce pays, c'était de dire à tout étranger, si tu es à Rome, tu fais comme les Romains. Mmh. En l'occurrence, ça paraît simpliste de le dire, mais je pense que là, il y a eu un abandon qui est un abandon, à mon avis, dramatique et qui explique aussi, c'est pas la seule raison, mais qui explique aussi la raison pour laquelle aujourd'hui on se retrouve dans cette situation-là.
Sur la justice, oui, elle n'a pas les moyens, la réponse pénale n'est pas à la hauteur, mais quand vous discutez avec les avocats, la seule réponse importante qu'attendent, qu'il faut avoir, c'est la prison. Bon, parce que la meilleure des sanctions, c'est la prison. Bon, sauf qu'il n'y a pas assez de place dans les prisons. Donc il faut absolument, et c'est le problème à chaque campagne électorale, on annonce 15 000, 20 000 places de prison, et finalement, elles ne sont jamais construites. Et quand vous avez une personne qui sort condamnée du tribunal en ayant 5 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende, et bien en fait, il a gagné parce qu'il fait pas de prison. Et donc la meilleure des sanctions, il n'y a pas de mystère, c'est la prison, 15 jours, 3 semaines, etc. Ouais. Mais c'est la prison, mais il n'y a pas de prison, donc on ne peut pas les mettre en prison.
Il n'y a pas de place.
Deuxième chose, je finis juste sur l'immigration.
Sur l'immigration. Des gamins qui vont dans des écoles pourries, puis qui vont en prison.
On ne pourra jamais, sur l'immigration...
Il n'y a pas que des écoles pourries. On n'a pas le temps de continuer le débat, vous caricaturez aussi un peu. Quand vous parlez des transports et que vous parlez des écoles, il n'y a pas qu'à Marseille où les écoles sont pourries. Il y a d'autres endroits où il y a des Algéco. Vous allez dans certains endroits. C'est pas l'excuse d'être dealer à 14 ans, quand même.
Aller voir la pauvreté qui règne dans nos campagnes, au fin fond de l'Oise ou de l'Ardèche, où là, pour le coup, il n'y a pas un seul transport en commun non plus, etc. Et c'est pas pour autant qu'ils se lancent dans le trafic de drogue et la violence et l'insécurité du quotidien.
Bon, on refera, on continuera ce débat. Merci à tous les quatre. Et on va suivre, évidemment, cette visite d'Emmanuel Macron. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.